Bonsoir et bienvenue dans l'épisode 29 de la première saison d'une heure en série consacrée ce soir au top 10 des auditeurs. Donc pas de décryptage ni de débat cette semaine, mais une émission exceptionnelle à plus d'un titre qui va nous permettre de découvrir le top 10 des auditeurs de France Inter, soit vos 10 séries préférées françaises et étrangères.
Une heure en série, Xavier Le Herpeur.
Et vous avez été plus de 1300 à voter pour ce top 10, donc déjà mille merci pour cette fidélité à une émission encore naissante, encore balbutiante. C'est une première saison, j'espère qu'il y en aura beaucoup. Et pour m'aider à décrypter ce palmarès, j'ai une dream team absolue évidemment, avec Ariane Allard. Bonjour. De Cosette,
bonjour Ariane, Xavier.
Marjolaine Boutet de Phosphore, bonjour. Mais pas que bien évidemment, et Benoît Lagane du 5-7 le vendredi.
Salut.
De Mathilde Munoz. Merci beaucoup à tous les trois d'être là. Qui dit émission spéciale dit nécessairement surprise, donc restez bien à l'écoute de notre émission jusqu'à la fin, car nous vous réservons une surprise de taille au moment de la révélation de la série triomphante, mais pour l'heure, qui est numéro 10 de ce top 10. Alors ça, c'est aussi une surprise et de taille. On ne voyait pas venir aussi haut cette série pour laquelle on a effectivement, nous tous, beaucoup de tendresse et d'affection. Il s'agit de Leftovers, une série diffusée sur HBO entre 2014 et 2017, créée par Damon Lindelof, producteur et scénariste sur The Lost et Watchmen. Pas n'importe qui quand même, et Tom Perrotta, l'auteur de Mrs. Fletcher ou Les Tribulations du MILF, mais surtout auteur des Disparus de Mapleton, dont la série est inspirée.
You want to get out of here?
Out of the restaurant?
No. Not the restaurant.
When I heard about this place, I'd be lying if I told you I understood it. But I understand it now.
Is it real?
It's real.
We ought to invite them over for dinner tonight.
You're gonna work on your birthday.
Just being neighborly.
And so it begins.
I know we just met and all.
But what are you looking for?
A fresh start?
I like it here.
Me too.
Benoît, à propos de The Leftovers, qu'on n'avait pas vu aussi haut quand même dans le palmarès, oui, mais on est ravis de l'acuité de nos auditeurs.
Oui, ravi que cette série, avec trois minuscules saisons au fond, soit si haut dans le top. Donc cette série qui raconte cette histoire de la population confrontée à la disparition de 2% de ses convives, on va dire. Donc 2% disparaissent, bloup, on est en octobre 2011, le 14 octobre. Oui, parce que c'est un peu comme ça. Moi,
c'est
la première...
tragique quand même.
Oui, mais sauf que bloup quand même, que quand ils sont autour du petit déjeuner et que tout d'un coup il y a des personnes qui disparaissent, ça fait un peu étrange. Non, c'est vraiment une très très belle série qui est signée donc Damon Lindelof, vous le disiez, à qui l'on doit Lost. Et donc il faut, comme pour Lost, il faut pas essayer de chercher les raisons de pourquoi ils disparaissent. C'est pas la question. La question, c'est comment ils vivent avec ça. Et c'est ça la grande force donc de The Leftovers. Et d'ailleurs, la première saison va vraiment parler de ceux qui restent, hein, donc comment ils gèrent la disparition, ceux qui restent. Deuxième saison sur une ville où là, peu de gens ont disparu, ou le voilà, la ville miraculée. Et puis une troisième saison qui va quand même essayer de comprendre où on va. Mais pas où on va précisément, non, où on va dans l'absolu. Et c'est une vraiment série magnifique.
Absolument, je suis entièrement d'accord. À la place numéro 9...
C'est Baron Noir.
C'est ça, oui.
Oui, c'est ça, c'est Baron Noir.
J'avais un doute quant au générique. Baron Noir sur Canal Plus depuis 2016, écrit par Éric Benzécry, auteur de Lascar et de Maison Close, et Jean-Baptiste Delafont, également auteur sur Maison Close, Julie Lescaut et Commissaire Valence.
Alors, c'est le signe d'une relation certes très dégradée, mais qui peut être avivée. D'un autre point de vue, oui, il y a le feu, mais vous disposez de centaines de litres cubes d'eau pour éteindre cet incendie. Seulement voilà, les jerrycans restent cachés, donc impossible à l'emploi. Et c'est pour
évidemment
ça
que je suis autoritaire. Je suis présidente de la République. C'est une qualité, pas un défaut.
Alors, pour un homme, oui, peut-être. Pour une femme, c'est plus compliqué.
Le qualificatif femme n'est mentionné qu'à la 7e position par tous les focus group.
Si le nom d'Amélie de Rendeux évoque ma politique avant mon sexe, je m'en félicite. Et je vous suggère d'en faire autant, madame.
Au moment de votre élection, vous étiez avant tout la première femme présidente de la République. Mais les études sont claires, on a beaucoup
perdu là-dessus. Je ne suis plus la première femme présidente de la République. Peut-être plus une femme du tout.
Baron Noir, série hautement politique et presque prémonitoire, d'ailleurs, ouais, saison après saison, des mutations politiques et idéologiques de la France. Ariane Allard.
Oui, alors, en fait, la diffusion de la saison 3 vient juste de s'achever sur Canal. Je suppose que ça a aussi favorisé peut-être le placement dans le top 10. Moi, je dois dire que je trouve que c'est une série à la fois passionnante et surtout formidablement dialoguée et ciselée. C'est un travail d'écriture génial. Alors, ça raconte quoi, Baron Noir, quand même, pour ceux qui ne l'auraient pas encore découverte? Ça raconte le parcours politique et judiciaire de Philippe Rivard, qui est député maire du nord de la France.
Cadmeyrade.
Voilà, Cadmeyrade, mais qui est surtout un très très brillant stratège, porté par une soif de revanche sociale irrépressible. Alors, on dit que c'est le double fictif de Julien Drey. En tout cas, c'est vous dire à quel point cette série, et cette série française, parce que c'est une des premières qui se confronte à l'actualité politique de façon aussi précise et aussi engagée. Et moi, je trouve ça à l'américaine, en quelque sorte. Je trouve que c'est extrêmement réussi. Le petit miracle pour moi, c'est qu'on est plongé dans des méandres, dans des manigances, et puis surtout dans une espèce de bain cynique de la réelle politique. Et personnellement, moi, ça ne m'a jamais dégoûté. Au contraire, ça m'a complètement absorbé. C'est un paradoxe formidable. C'est surtout à une époque où le dégagisme est quand même essentiellement à la mode. Je pense que ça tient juste à l'écriture et au point de vue des auteurs. C'est un point de vue qui nous permet à la fois de suivre des destins personnels et aussi d'assister à des débats d'idées que je trouve extrêmement intelligents et bien présentés sur l'extrême droite, sur les populismes, sur le communautarisme, et etc., sur la pensée anti-système. Ça colle au réel, en même temps ça arrive de la fiction. Moi, j'ai trouvé ça passionnant.
Merci beaucoup, Ariane. À la place numéro 8, que trouvons-nous? Oh, ça sent les pics, ça sent les dragons,
ça
sent le souffle.
C'est dynastie.
Oui, bien joué, Benoît, bravo, vous reviendrez en deuxième saison.
Voilà.
Je crois qu'on a reconnu Game of Thrones.
Dynastie, hein, voilà, avec des épées et des dragons. Non, plus
non,
sérieusement.
On va écouter un petit extrait, Marjolaine. Je sens mon enthousiasme à l'idée de parler de cette série. Je vais juste me permettre de rappeler qu'elle a été produite par HBO entre 2011 et 2019 et créée par David Benioff, scénariste au cinéma de 3 Wolverine et le récent Gemini Man, très oubliable, hein, sa carrière au cinéma, faut dire les choses. Et D.B. Weiss, écrivain et scénariste, qui se sont donc penchés sur les romans de George R.R. Martin. On écoute un extrait et Marjolaine, je vous rends cette parole que vous étiez prête à prendre, envers et contre tous.
Ne regarde pas trop longtemps, c'est timide, un géant. Et quand la timidité s'en va, ça tourne à la colère. J'en ai vu un se mettre en colère. Il a tapé sur un homme à coups de poing comme si c'était un clou et il l'a enfoncé dans le sol.
Ah, attention, il y a un corps dans le camp.
Un corps, ça pas pour longtemps.
Il a corps.
Tes habits sont pas de la bonne couleur.
Bon, c'était patrouilleur autrefois.
Oui, tous les corbeaux au fond de leur cœur, ils rêvent de s'envoler.
Si on est libre ici, je serai libre d'aller où je veux.
Oui, bien sûr. Et je serai libre de te tuer.
Marjolaine, tiens, à propos de Game of Thrones, auriez-vous quelque chose à dire?
Un petit peu. C'est la série emblématique des années 2010. C'est la première série de medieval fantasy qui crée visuellement et de façon vraiment superbe et époustouflante le monde imaginé par George R.R. Martin, vous l'avez dit, dans la saga littéraire du Trône de Fer. C'est une série qui est dépaysante à tous les niveaux. D'abord, les paysages qui permettent de redécouvrir la richesse de nos paysages européens, puisque c'est tourné dans un très grand nombre de pays d'Europe. Dépaysante aussi sur les mœurs, les rapports hommes-femmes, les rapports adultes-enfants, etc. Les animaux fantastiques, évidemment, les dragons et d'autres créatures. C'est aussi une série ultra-violente, en particulier contre les femmes et les enfants, mais pas seulement. Mais surtout, c'est une série éminemment politique, qui pose la question de qu'est-ce que ça coûte de vouloir le pouvoir? Qu'est-ce que ça coûte de le garder? Qu'est-ce qui fait qu'on est ou pas? Qu'est-ce qui fait qu'on devient ou pas un bon chef? Et pour toutes ces raisons, c'est passionnant. C'était la série la plus attendue, la plus téléchargée. Et donc, il est tout à fait normal qu'elle soit dans ce top 10.
Ah, c'est l'art du feuilleton, vraiment poussé à son sommet, à son summum. Extrêmement, effectivement, recommandé. Petit conseil lecture, obligatoirement, elle n'est pas là aujourd'hui, mais on vous invite à redécouvrir le livre d'Ava Cahen, Game of Thrones. Décoder tout ce que vous devez savoir sur la série, et c'est édité aux éditions du Rocher.
Anything you want.
but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop. Did I move too far? It's all too much. I think I must be mad to give you everything I had, everything I had, everything, everything, but it still went bad. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop.
Et pour célébrer la victoire, évidemment, de Game of Thrones dans ce top 10, Stop the Flame par Céleste, évidemment, puisqu'il est question de dragon.
France Inter. Une heure en série.
Et qui occupe la 7e place de ce top 10?
Oh.
Une note suffit, on est d'accord, Marjolaine, absolument. C'était 6e de notre top 20, et je crois qu'on a tous reconnu ce générique auquel on était accro, comme la série d'ailleurs, Six Feet Under, diffusé sur HBO entre 2001 et 2005, créé par l'immense Alan Ball, qui a également travaillé sur la série True Blood et sur la mal aimée et récente Here and Now, qui n'a pas trouvé son public.
Non, Marjolaine.
Moi, je trouvais très bien aussi, mais le débat n'est pas là, de toute façon, parce que nous parlons de Six Feet Under.
Nous n'égarons pas.
C'était notre père. Je te prie de te taire. Tu peux lui injecter tous les produits que tu veux. Tu peux le couvrir de fond de teint. L'installer confortablement dans une chambre funéraire de luxe. Il ne reste pas moins, David, que le seul père que nous n'aurons jamais, toi et moi, est mort. Pour toujours. Et que c'est nul. Mais c'est vrai que ça fait partie de la vie. Et si tu veux vraiment l'accepter, il faut que tu te salisses les mains. Moi, je l'accepte. Et j'ai l'intention d'honorer ce pauvre vieux en faisant voir à tous les gens que ça me fout complètement en l'air qu'il nous ait quittés.
Une famille dysfonctionnelle. La famille, c'est votre truc dans les séries, oui. Benoît, parce que vous avez un cœur, au contraire de nous. Donc, obligatoirement, il vous est choix de défendre l'excellent choix, en revanche, de nos auditeurs de Six Feet Under à la 7e place.
Ravi que Six Feet Under soit dans ce top 10, tellement cette série est magnifique. Alors, c'est la famille Fisher, l'histoire de la famille Fisher, des croque-morts, voilà, dysfonctionnelle, mais en plus croque-morts. Donc, il y a les fils Nate et David qui reprennent, après la mort du père, la tête de l'entreprise. Claire, la sœur, la mère Ruth, qui est libérée tout à coup du poids notamment de son mari, et plus que ça, la compagne de Nate, Brenda, enfin bon bref, tout un monde qui...
Un casting extraordinaire.
C'est une série signée donc par Alan Ball, vous le disiez, et aussi, on le cite moins, mais Alan Poole, producteur, à qui on doit notamment Angela 15 ans. Et donc c'est l'addition entre ces auteurs et ces producteurs qui connaissent parfaitement les séries de network, donc ces grandes chaînes gratuites, ces séries familiales, et qui la revisitent façon câble. Et ça devient donc Six Feet Under, Formula Show parfait, dans chaque épisode une introduction avec une mort plus ou moins drôle. Hein. Il faut dire que Alan
Ball a une mort subite du nourrisson, oui. Ce qui est quand même pas le truc le plus gouléant, on va dire, de l'histoire.
Oui, mais il y a des moments très drôles.
Ouais,
et Alan Ball ayant travaillé sur Sibyl, une sitcom, ça se sent hein, qu'il sait quand même écrire aussi de l'humour.
Sibyl Shepherd.
Oui, la série.
Voilà. Ne refusez jamais le nom de cette comédienne absolument extraordinaire.
D'accord,
quand
même. Très bien. Un final rêvé. Hein, voilà, une série qui se termine vraiment bien. 5 saisons magnifiques, à tel point qu'on regrette de les voir s'en aller, mais à la fois, vu comment ça se termine, on dit que la boucle est extrêmement et admirablement bien bouclée. Donc bravo Six Feet Under. Voilà.
Merci beaucoup Benoît. Qui occupe la 6e place? Vous avez reconnu un western, où il est question de drogue, de cancer, de fin de
western
vie.
Western et polar.
Western et polar, mais enfin, en tout cas, c'est comme ça que son auteur le voulait, comme ouais. Un western. Il s'agit bien évidemment de Breaking Bad, diffusé sur AMC et créé par Vince Gilligan, qui était auteur sur X-Files.
Monsieur White. Oui. Vous avez compris ce que je vous ai dit?
Oui. Cancer du poumon, inopérable. Dans le meilleur des cas, avec une chimio, je vivrai peut-être encore 1 ou 2 ans. La chimie, c'est l'étude de la matière. Mais je préfère l'envisager comme l'étude de ce qui change.
Oh ouais. Vous voulez fabriquer de la meth?
Tu connais le business? Et je connais la chimie. C'est la croissance, la désintégration et la transformation. Ça, c'est pas de la meth.
Voilà une série pour le moins politiquement incorrecte. Et qui dit politiquement incorrect dit Ariane Allard, bien évidemment.
Mais bien évidemment. Donc Breaking Bad, je rappelle pour tous ceux qui éventuellement étaient hors de la Terre ces dernières années.
Les colonies sur Mars ont eu plus tardivement, oui.
Voilà, c'est l'histoire toute simple au départ d'un certain Walter White, qui est donc un prof de chimie et un père de famille morose de 50 ans, et qui apprend un jour qu'il est atteint d'un cancer incurable. Donc que fait-il ce brave homme? Eh bien, il décide de mettre à profit ses connaissances en chimie pour fabriquer du cristal meth, c'est-à-dire une drogue de synthèse qui rapporte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, puisque l'idée pour lui, toujours au départ, c'est de mettre sa famille à l'abri. Alors, je vais être très, très honnête avec vous, très simple, contrairement à lui qui n'est pas du tout honnête. Je pense que cette série, pour moi, est l'une des séries jalons, voire étalons des années 2000, avec Six Feet Under, je suis tout à fait d'accord, The Wire et Mad Men. Pour moi, ça fait vraiment partie des 4 les plus grandes séries américaines. C'est-à-dire qu'on en parle à titre de souvenir et de référence. Pourquoi? D'abord, le personnage de Walter White. Au départ, il nous est présenté comme un personnage attachant et de plus en plus, il va devenir épouvantable et terrifiant. C'est donc quand même la chronique du une monstruosité ordinaire, c'est une espèce de personnage ogresque, ça c'est la première chose. Et puis d'un point de vue narratif et mécanique, c'est une série qui gagne en complexité au fil de ses 5 saisons, c'est toujours plus sombre et toujours plus surprenant. Moi je dirais que franchement, cette série a permis, grâce à la notion de durée, parce que c'est grâce à cette notion de durée propre à l'écriture sérielle, qu'on découvre des personnages formidablement complexes. Pour moi, Breaking Bad et quelques autres a permis à l'écriture sérielle de conquérir véritablement ses lettres de noblesse.
On cite le spin-off quand même peut-être de Breaking Bad, oui. Better Call Saul.
Better Call Saul, et au niveau de la réalisation Breaking Bad, c'est également très très beau.
Il y a vraiment des moments de bravoure même extraordinaire.
Bravo les filles, très bien défendu. Vous êtes bien sûr une heure en série, émission spéciale consacrée à la révélation de votre top 10, le top 10 des séries préférées des auditeurs de France Inter. Jusque-là, nous avons dévoilé le bas entre guillemets du classement, à la 10e place Left 9e place Baron Noir, 8e Game of Thrones, 7e Six Feet Under et 6e Breaking Bad, ardemment défendu par Ariane et Marjolaine.
France Inter. Une heure en série.
Et il est l'heure de révéler quelle série occupe la 5e place. When you walk to the garden. Elle était 2e de notre top 20, 5e donc du top 10 des auditeurs de France Inter The Wire, sur écoute bien évidemment HBO entre 2000 et 2008, créé par David Simon, journaliste et auteur de Baltimore, le livre paru chez Sonati, qui fut à la base à la fois de la série The Corner et The Wire. J'avais oublié The Corner dans notre émission du top 20, donc voilà, je me suis rattrapé. Benoît, défendez donc The Wire, que je sais que vous adorez.
On s'arrête là. Laisse tomber ton linge sale et tourne-toi lentement.
Tu veux me dépouiller ici ? Est-ce que tu sais à qui tu t'adresses ?
Omar, c'est bien ça ? Sors-le lentement et jette-le.
Ah, ça, je vais aller lentement. Mais je vais rien jeter du tout. Papillon. Alors peu importe ce que tu vas faire, mais fais-le vite. Je savais qu'on se reverrait.
Je parie que ça t'a pas empêché de dormir.
Se soucier de toi, c'est comme se demander si le soleil va se lever. Y a pas à s'en faire pour ça. Ce que je voudrais savoir, c'est comment tu m'as retrouvé.
Ton mec, il t'a pas facilement balancé.
Il a pas du sang de navet dans les veines.
Benoît, j'allais vous céder la parole juste avant l'extrait. Je vous la rends à nouveau, donc, à propos de The Wire.
Oui, donc, David Simon, que vous citiez effectivement, ce journaliste du Baltimore Sun. Donc, il avait effectivement signé Baltimore. Le livre en France est traduit Baltimore. Le titre original, c'est Homicide, A Year on the Street. Donc, au départ, David Simon adapte ce texte, qui est un texte journalistique, en série pour NBC. Ça s'appelle Homicide, sauf qu'il écrit que quelques épisodes. Et il a envie d'aller plus loin au-delà de ça. Cette série signée Tom Fontana, lui plaît, mais il veut aller plus loin. Et donc, il crée The Wire, et quelle bonne idée! Parce que grâce à The Wire, il arrive à nous montrer le quotidien de ces flics de Baltimore, ce qu'avait montré Homicide, mais en axant beaucoup plus le point de départ autour du trafic de drogue. Puis, petit à petit, on pourrait penser que la série va se limiter qu'à ça, sauf que non, étape après étape, saison après saison, la série se densifie, va nous montrer la vie des dockers à Baltimore, ensuite le monde de la politique, celui du système éducatif, ce qui fait que ça en fait une série, parfois qu'on dit policière, mais non, en fait, c'est beaucoup plus que ça, c'est vraiment une série sociale, politique, engagée et avec une vision documentaire extrêmement bien soignée. Il faut dire que quand la série arrive sur HBO, on avait eu Six Feet Under dont on a parlé juste avant, on avait eu Les Sopranos, c'est toujours des vraies forces, mais de fiction, de grande fiction. Là, tout d'un coup, on est dans de la fiction, mais qui est aussi très ancrée dans le réel et ça a fait beaucoup de bien et c'est devenu une référence aujourd'hui. Et puis une série qui, en France, a pu intéresser autant les jeunes dans les cités que dans les salons et dans les universités, une série qui a finalement réuni tout le monde. Je comprends qu'elle soit à cette cinquième place.
Et qui a sacré les carrières de deux comédiens plutôt intéressants, Dominique West et Idriss Elba. Oui. Voilà, rien que pour ça, déjà, on aime beaucoup The Wire. Il est temps de révéler la série qui occupe la quatrième place. Alors là, c'est dommage que nous ne soyons pas à la télévision, parce que Marjolaine est en train d'entamer une petite chorégraphie derrière son micro d'assez bon goût, je tiens à le dire. Donc Marjolaine, je vous laisse le soin de révéler le titre de cette série.
Eh bien, ça s'appelle 10% ou Call My Agent en anglais.
Diffusé sur France 2, créé par Fanny Herrero, autrice sur un village français, fait pas ci, fait pas ça, et produite par Dominique Besnéard, ce qui effectivement apporte beaucoup de véracité à l'histoire de cette agence d'agents artistiques. Petit extrait.
Donc chaque agent a en moyenne 80 comédiens. On les aide à trouver des rôles, on négocie leurs contrats, on les accompagne dans la gestion de leur carrière. En échange, on prend 10% de la rémunération. Alors, je te présente Hervé, l'assistant de Gabriel Sarda. Noémie, l'assistante de Mathias Barneville.
Bonjour.
Et... pardon, comment tu t'appelles déjà ?
Camille.
Camille, voilà. Donc Camille, tu te mets là, dans un premier temps, tu prends tous les appels, tu notes tout, et tu ne dis rien d'autre qu'elle est en rendez-vous à l'extérieur. Ok ?
Voilà, et pour défendre 10%, vous me rappelez votre nom, pardon ? Marjolaine, c'est ça ? Voilà.
Camille. Pour moi, cette série, c'est vraiment une des grandes réussites du service public. C'est une comédie chorale, donc créée par Fanny Herrero, qui a notamment collaboré à Un village français. J'étais obligée de mentionner cette grande oubliée du
ton
top 10.
Hélas.
Donc, une comédie chorale située dans un monde professionnel, et pas n'importe quel monde professionnel. L'extrait l'a très bien défini. Un monde professionnel, donc celui des agents artistiques, qui réussit à faire rêver. Donc, on nous emmène dans les coulisses du cinéma en suivant donc le métier peu connu du grand public d'agent. C'est aussi une série qui réussit à faire rire, puisque les situations sont le plus souvent légères, et une pléthore de stars, alors on peut pas tous les citer, mais disons Cécile de France, Isabelle Adjani, Jean Dujardin, Nathalie Baye, Joël Starr, Fabrice Luchini, etc., etc., qui viennent gentiment écorcher leur image. Et c'est une série aussi qui fait gentiment bouger les lignes, je trouve, et c'est ça la dimension service public, à travers le personnage d'Andrea Martel, donc interprété par Camille Cotin, qu'on peut définir comme une lesbienne badass, grâce à laquelle le grand public a pu découvrir, notamment en saison 3, qui est la plus émouvante des trois, des difficultés pour deux femmes qui s'aiment d'élever un enfant ensemble. Et rien que pour ça, bravo 10%.
Je suis entièrement d'accord. La quatrième saison est bientôt en...
On l'attend.
On l'attend.
Incessamment.
Elle est tournée. Elle est tournée. Donc voilà, très bien.
On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern.
On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern.
On chante la même mélodie.
On chante la même mélodie, mais pas avec les mêmes harmonies.
Je chante à cette octave. Chante les mêmes mots.
Pas tout à fait les mêmes mots, pas tout à fait les mêmes mots,
pas tout à fait les mêmes mots, pas tout à fait les mêmes mots, pas tout à fait les mêmes mots, pas tout à fait les mêmes mots, pas tout à fait les mêmes mots. Tout à fait les mêmes mots, tout à fait les mêmes mots, les mêmes mots.
Tu aimes faire la musique avec moi?
Ah oui, j'aime faire la musique avec toi. Regarde là-bas, le soleil rougeoie.
Je joue du synthé pour toi.
Je joue de la guitare pour toi.
Je joue du piano pour toi.
De la flûte pour toi.
On joue la même mélodie.
On joue la même mélodie, mais pas avec le même son. Et ça nous rend moins cons. 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 Mais pas le même pattern.
On a le même tempo, mais pas le même pattern.
On a le même tempo, mais pas le même pattern.
On a le même tempo, mais pas le même pattern.
On a le même tempo, mais pas le même pattern.
On a le même tempo, mais pas le même pattern.
Voilà, c'était duo de Philippe Catherine et Angèle. Philippe Catherine qui a fait partie d'ailleurs du casting de 10%. Il est temps de révéler qui est à la troisième place de ce top 10 des auditeurs.
France Inter. Une heure en série.
Et qui occupe la troisième place de ce palmarès? Générique indice.
Oui, bah,
c'est trop facile, bien évidemment. Ça a fait ruer quand même un sacré nombre de téléspectateurs devant leur écran dès qu'on entendait résonner comme ça ces trompes. Ariane Allard, Kaamelott, on va écouter un petit extrait pour le plaisir, bien évidemment, et vous nous direz après pourquoi vous pensez que cette série est une des meilleures de la production française.
Ça s'est bien passé?
Non.
Qu'est-ce que vous avez fait? Racontez-moi.
Bon, j'avais peut-être mis la barre un peu haut. Je m'étais fixé de leur faire combattre un troll.
Un troll? Mais vous êtes dingue. Yvain, il a peur des guêpes, déjà.
Oh, c'est même pas vrai.
Mon oncle, le seigneur Lancelot a délibérément mis nos vies en danger.
Regardez, quand il a ouvert le ventre du troll, j'ai reçu un jet d'acide qui m'a pratiquement acidifié.
Je devais faire de vous de fiers combattants. J'ai jamais dit que je vous emmenais en pique-nique.
Attendez.
Il y a eu une expérience malheureuse, bon d'accord, ça veut pas forcément dire qu'il faut abandonner.
Moi, je ne retourne pas avec ce dangereux personnage.
Moi, je m'en fous si on me force à retourner. Je retiens ma respiration jusqu'à qu'on arrête de me forcer à y retourner.
Diffusée sur M6 pendant 6 saisons, oui. Écrite et interprétée par Alexandre Astier et Alain Capoff. Alors, Ariane.
Alors, pour moi, Kaamelott, c'est tout sauf de la pacotille. Ok, le jeu de mots est pas très bon, mais
pas
j'avoue.
Mal pour le soir, un samedi.
Voilà. Enfin, c'est surtout, je pense, une espèce d'ovni télévisuel pour moi. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est une série de fantasy historique qui propose une vision décalée et surtout trivial, hein, de la légende arthurienne et de la fameuse quête du Graal. Donc c'est à des années-lumière de la beauté, de la magie originelle. On se retrouve avec Arthur dans sa cour de Bretagne et qui est surtout affublé donc d'une cour de crétins, faut le dire, querelleurs et de chevaliers tous plus couards les uns que les autres pour notre plus grand bonheur. C'est une série qui est devenue culte et surtout, alors bien sûr il y a des influences, il faut quand même les citer parce qu'on les aime également.
Pas toutes, on n'a plus beaucoup de temps.
Les Monty Python, en tout cas, et Astérix. Absolument. D'ailleurs, ce sont des influences assumées. Mais moi, je pense surtout qu'il faut parler du génie tout à fait singulier et personnel d'Alexandre Astier, l'homme orchestre, à l'époque, on ne disait pas showrunner, total de Kaamelott, puisqu'il en est le créateur, le co-scénariste, le co-réalisateur, le compositeur, hein, ces fameuses musiques introductives, voilà, c'est lui, et l'acteur principal, puisque Arthur, c'est lui, et les deux A de Kaamelott dans le titre, je termine là-dessus, eh bien, sont là pour marquer sa paternité.
Très bien, merci. Qui occupe la deuxième place de notre palmarès?
Quel générique.
Magnifique, c'est vrai. Marjolaine, je vous laisse le soin de révéler le titre.
Ah mais c'est Engrenage.
Je vous terrorise sur Canal+, depuis 2005, créé par Alexandra Claire et Guy Patrick, 102 Richin. On écoute tout de suite un petit extrait.
Monsieur le procureur, bonjour.
Bonjour. Est-ce qu'on a pu voir son visage?
Ah, on a vu qu'il n'y avait rien à voir, elle a été défigurée. Son visage a été réduit en bouillie.
Parce qu'elle était belle, j'en suis sûr.
Donc, pas de vêtements, pas de signes distinctifs. Une bague à l'annulaire gauche. Bien sûr, pas de papier, on n'a rien pour établir son identité. Elle a probablement été assassinée cette nuit, on ne sait pas où, puis transportée ici après.
Je vais ouvrir une information, je vous charge officiellement de la suite de l'enquête. Capitaine
Lorberto.
Capitaine Berthaud, vous vous tiendrez à la disposition du magistrat instructeur. C'est monsieur Robin, vous le connaissez?
Oui.
Vous savez, ils l'ont tué parce qu'elle était belle.
Marjolaine, à propos d'Engrenage.
Donc Engrenage, c'est la première création originale de Canal+. C'est diffusé depuis 2005, 7 saisons, 76 épisodes. Et c'est une série qui se caractérise surtout par sa complexité et son réalisme. C'est une série à la fois policière et judiciaire qui suit une même enquête sur 10-12 épisodes, située dans Paris et sa banlieue nord. Donc vraiment un Paris qui n'est pas du tout le Paris touristique et qui fait la part belle aux femmes, à la fois devant et derrière la caméra. Et je voudrais souligner à ce titre le rôle déterminant de la scénariste Anne Landois sur les saisons 3 à 6, dans le développement notamment du personnage du capitaine Berthiaud, magnifiquement interprété par Caroline Proust. Ce capitaine Berthiaud, donc, c'est une femme flic qui sacrifie tout, y compris sa maternité et son bonheur sentimental, à son éthique professionnelle. L'écriture, la distribution, alors on peut citer Philippe Duclos, Audrey Fleurot, Thierry Godard, et la réalisation sont vraiment au cordeau, ce qui explique le très grand succès de cette série à l'étranger, et en particulier au Royaume-Uni, où elle est diffusée sous le titre de Spiral.
Oui, plus de 70 pays, je crois, ont acheté à ce jour Engrenage. Dans quelques instants, nous allons découvrir qui a gagné, qui a remporté le top 10 de nos auditeurs. Je vous rappelle juste pour l'instant les autres lauréats. 10e place, Leftovers. 9e place, Baron Noir. 8e, Game of Thrones. 7e, Six Feet Under. 6e, Breaking Bad. 5e, The Wire. 4e, 10%. 3e, Kaamelott. Et 2e, Engrenage. C'est dire...
Ta-da.
Que nos auditeurs ont bon goût et je crois qu'ils l'ont eu encore plus concernant la série qui remporte le titre donc de série préférée des auditeurs de France Inter. Oui, là aussi, hein, je crois que 3 notes suffisent amplement à nous signaler quand même que la grande série lauréate, loin devant les autres, désolé, hein, c'est le Bureau des Légendes, évidemment, et ils nous font l'honneur, vraiment, et la gentillesse d'être là en plateau, Camille de Castelnau et Éric Rochant, qui est, alors, rapidement, auteur sur la série, showrunner. On va expliquer évidemment tout cela. Je vais vous laisser sous le feu nourri des questions de mes chroniqueuses et de mon chroniqueur. En tout cas, bravo.
Moscou, c'est là que j'irai. C'est une fourmilière. On n'a quasiment aucune chance de le retrouver. Il le sait.
Il nous faut être vigilants et impitoyables.
Tu vises qui en réalité ?
Si ça tenait qu'à moi, je verrais tout le monde.
Vous avez tous œuvré pour qu'il nous échappe sans cesse. Il s'est vendu aux Américains, maintenant il se vend aux Russes. Ce type est un traître. Point.
Mugwe.
Celui qui deviendra le leader de l'intelligence artificielle sera celui qui dominera le monde.
Les Russes pensent qu'on est des couillons.
Il y a plein de trucs que je sais faire qu'ils savent pas faire.
La ferme à l'autrui est la pire catastrophe interne que le DGSE ait jamais connue.
Marjolaine, une question à nos invités.
Évidemment, je suis une grande fan du Bureau des Légendes. Et ce que je voudrais que vous essayiez d'expliquer, c'est comment est-ce que vous faites pour rendre une actualité toujours aussi brûlante en fiction ? Comment est-ce qu'on transforme le renseignement, la question de géopolitique, des choses qui sont quand même extrêmement complexes ? Comment est-ce qu'on en fait une fiction haletante qu'on a envie de suivre et dont on attend chaque saison vraiment avec impatience ?
Éric Rochant.
Oui, bonjour. Écoutez, je ne suis pas sûr qu'on le sache vraiment nous-mêmes à 100% comment on fait. En fait, chaque année qu'on est en train de tourner la saison, en général, l'écriture de la saison suivante commence au tiers du tournage. Donc pendant que ça tourne, on se réunit avec Camille et peut-être une ou deux autres personnes pour réfléchir à ce qu'on va faire la saison suivante. Et là, en fait, les deux premières questions qu'on se pose, c'est les personnages. On les a, voilà là où on les a amenés. Donc, est-ce que d'abord on est encore inspiré par eux ? Est-ce qu'on a encore envie de dire des choses sur eux ? Qu'est-ce qui serait intéressant de dire et où ça serait intéressant de les mettre pour qu'ils révèlent des choses nouvelles d'eux-mêmes, d'une part, et surtout et aussi thématiquement. Je pense qu'on a envie de raconter des choses sur Marie-Jeanne, sur Sisteron. Et du coup, on se pose des questions sur vraiment. Et je crois que c'est quand même la première chose qu'on se pose, c'est les personnages.
L'actualité vient en renfort. J'ai l'impression qu'on pioche un peu dans le réel, les choses qui peuvent nous aider à amener le personnage là où on a envie qu'ils aillent.
Voilà. Et donc, alors après l'actualité, on se pose la deuxième question qu'on se pose. Alors les personnages, ça dépend des acteurs aussi. C'est important parce qu'en fait, les acteurs nous donnent envie. De eux-mêmes en fait nous inspirent, c'est-à-dire nous donnent envie de raconter quelque chose de différent avec eux. Vraiment, des actrices comme Sarah Giraudeau ou Florence Pouarécaille nous donnent souvent envie de fouiller des aspects de leur personnalité, de les confronter à des nouvelles choses pour les challenger d'une certaine manière. Donc ça, c'est l'osmose acteur-personnage influe vachement l'écriture. Et après, sur l'actualité, on se pose la question de savoir est-ce que on continue à être dans ce domaine, par exemple Irak, Syrie, Daesh. Hein. Bon, cette année, on le sera un peu moins parce que voilà, et aussi parce que l'actualité elle-même nous commande des fois de lâcher certains thématiques, et puis l'actualité nous commande de fouiller d'autres thématiques. Par exemple, c'est vrai que le domaine cyber est quelque chose qu'on a eu envie de fouiller un peu plus, parce que on l'avait abordé en saison 4, on a eu envie de l'approfondir, et parce que nous-mêmes on se pose des questions, hein, nous-mêmes on comprend pas tout, et on a envie et donc les questions qu'on se pose, on a envie d'y répondre nous-mêmes pour les autres. Mais donc on se pose la question, c'est où on va aller cette année. Qu'est-ce qui serait intéressant ? On a envie d'aller toujours, en fait. Il y a deux choses. On a toujours envie de faire du nouveau, d'explorer de nouveaux terrains sur les personnages et sur l'actualité. Mais on a envie aussi d'exploiter ce qu'on a déjà. Et ça, c'est la grande vertu de faire 5 saisons, c'est qu'à la 5e saison, on s'appuie vraiment sur ce qu'on a fait avant.
Benoît.
Les séries autour de l'espionnage, il y en a eu un paquet dans l'histoire de la télévision. Vous, quand vous êtes arrivé avec le Bureau des Légendes, et c'est ça qui a bluffé tout le monde, c'est que vous êtes arrivé avec une originalité qu'on n'avait pas vue dans d'autres types de séries. Presque, moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est contre presque quelle série d'espionnage vous aviez construit finalement votre Bureau des Légendes pour que ça ressemble à rien de ce que l'on avait vu jusque-là, tout en étant dans ce registre.
Camille et de Cassel.
Moi, j'en ai vu très peu, des séries d'espionnage.
Donc ça aide.
Donc ça aide, et j'ai pris grand soin de n'en voir, surtout n'en voir aucune pendant qu'on écrivait le Bureau des Légendes, par peur d'être influencée, d'être... même malgré moi, enfin voilà. C'est la référence, pour moi, c'était Homeland, mais il ne s'agissait évidemment pas du tout de refaire Homeland. pense que la différence, c'est qu'on était quand même déjà plus chorale que Homeland. Et la différence, je pense, c'est le ton. Enfin, mais je vais laisser Eric en parler, mais c'est le ton. C'est-à-dire que pour nous, c'était très important d'être... qu'il y a une forme de réalisme qu'on nous a beaucoup attribué. Enfin, voilà. Et voilà.
En fait, Homeland, c'est un peu l'anti-référence pour nous. je crois que dans les premières séances de travail qu'on a fait, j'ai dit à tout le monde autour de la table, j'ai dit, en fait, Homeland, c'est ce qu'il faut pas faire, je crois. Alors pourquoi? Parce que, en fait, c'était qu'une histoire. Évidemment, Homeland est une série, pendant quelques saisons, a été une série addictive. Je pense qu'elle s'est bien terminée. Je sais pas si elle est terminée ou pas, mais. Pour moi, quand même, c'était une série. En fait, c'est une série sur le renseignement et non pas une série d'espionnage. Alors, du coup, en faisant une série sur le renseignement, on fait plus une série sur le travail et donc sur l'aspect presque de tous les jours. C'est pour ça que ça s'appelle Le Bureau. Et mais on garde cet aspect quand même mythique de l'espionnage. Donc, en fait, faisant une série sur le renseignement, on fait quand même une série de genre un peu parce qu'on parle d'espionnage et tout ça. Et donc, c'est pour ça que ça s'appelle Le Bureau des légendes. C'est-à-dire vraiment ces deux vocables qui sont l'un contre l'autre. Qui sont antagonistes et qui sont l'un avec l'autre. Et donc, en fait, moi, j'ai, comme Camille, enfin, Camille n'a pas commencé, mais moi, j'ai cessé de regarder toute série. J'ai cessé de lire tous les livres d'espionnage. J'ai cessé de m'intéresser aux fictions d'espionnage. Alors d'une part parce que pour ne pas être influencé ou plutôt mal influencé, et aussi pour qu'on garde notre spontanéité et en fait partir de rien. Hein. Alors l'originalité, mais qui fait partie du projet lui-même, donc on n'a pas cherché à être original, mais l'originalité, oui. C'était juste de dire l'espionnage, donc le renseignement, c'est une activité humaine comme les autres, et donc d'aborder ça comme comme un métier. Et du coup, je pense que tout le monde peut se retrouver là-dedans.
Ariane Allard.
Oui, c'est juste une toute petite insert par rapport à ça. Comme Eric, vous êtes aussi un cinéaste et que Benoît évoque l'influence des séries ou pas. Moi, évidemment, je suis aussi très cinéphile et j'ai évidemment pensé à Hitchcock et aux Enchaînés. Est-ce qu'effectivement, dès le départ, c'est quelque chose qui vous a... Enfin, ça faisait partie du corpus de base et, ou pas du tout?
Alors moi, les Enchaînés, j'ai fait un film qui se réfère assez directement aux Enchaînés qui s'appelle Mobius. Oui. Donc d'une certaine manière,
avec Jean Dujardin,
voilà, et Cécile de France, et ça efface pour moi, de la même manière que j'ai filmé le Panthéon dans Un monde sans pitié, ben du coup j'ai plus de fascination pour le Panthéon. une fois qu'il est en boîte, il cesse de m'obséder. Et donc Les Enchaînés m'a obsédé pendant un certain temps, mais ça a cessé avec Mobius. Mais c'est vrai que de toute façon, ce qui est dans la série, c'est surtout l'histoire d'amour. Mais je crois qu'effectivement l'histoire d'amour et l'espionnage, de toute façon, c'est un domaine dans lequel qui fonctionne sur le malentendu, puisque ça fonctionne sur le mensonge. Donc, ça fonctionne sur le quiproquo. Oui. Et c'est là où c'est extrêmement puissant, où ce domaine-là de fiction était extrêmement puissant et a une vraie puissance romanesque.
Tu nous as beaucoup cité Les Enchaînés quand même en saison 1. Ah. Et Zero Dark Thirty, qui est pas du tout une série. Mais j'ai l'impression que idéalement, Le Bureau des légendes serait un peu au croisement de ces deux films qui n'ont rien à voir.
Et nos deux références quand même de base, hein, c'était quand même The West Wing et Mad Men, parce qu'on réfléchissait au niveau de choralité de la série, et on s'est dit on aimerait vraiment être choral comme The West Wing, c'est-à-dire quasiment pas de personnage principal, c'est vraiment un département, quoi, c'est The West Wing. Et après on avait aussi en ligne de mire Mad Men, parce qu'ils ont c'est aussi un département, puisque c'est une agence de pub, mais ils ont sorti un personnage du lot pour nous guider d'une certaine manière dans la thématique, et voilà, on s'est situé un peu entre les deux, je crois.
Ça tombe bien la référence à Mad Men, parce qu'effectivement, il y a quand même aussi des personnages féminins, et ça parle, puisque cette décennie parle de l'essor, enfin en tout cas un petit peu de la condition féminine. Moi, je trouve que dans Le Bureau des légendes, on a dû déjà vous le dire, mais je me permets de reposer la question, je trouve que le regard que vous portez sur vos personnages féminins est beaucoup plus positif que le regard que vous portez sur vos personnages masculins. Alors peut-être que c'est moi qui me projette, hein, mais j'aimerais quand même que vous me disiez ce que vous en pensez, à partir du moment où en plus vous êtes un tandem mixte, hein, et qu'à l'écriture, il y a des femmes aussi qui écrivent, peut-être nous parler de ça.
Alors, c'est vrai que d'abord, les personnages féminins reçoivent une lumière spécifique dans ce type de fiction qui est la fiction d'espionnage et la fiction du renseignement, parce que d'abord les femmes sont là, c'est pas des trucs d'action, alors même dans les films d'action il y a de plus en plus de femmes, mais oui. Là on n'est pas dans l'action, on est disons dans l'action un peu cérébrale, on est dans l'excellence qui ne demande pas obligatoirement de la testostérone, donc du coup la présence des femmes est très intéressante parce qu'elles sont confrontées, les personnages féminins sont confrontés aux mêmes dilemmes moraux. Et donc il y a ce point de vue qui est différent et qui est intéressant. Donc c'est un domaine privilégié pour créer des personnages féminins intéressants et forts. Premièrement, je pense qu'il y a plus de femmes dans le bureau des légendes qu'il n'y en a dans la DGSE. Je pense que le quota est plus un peu important. Donc ça fait partie peut-être.
Ça, c'est un choix.
C'est un choix de goût, je dirais. C'est là où on a envie d'aller. Mais évidemment, la deuxième raison pour laquelle c'est comme ça, c'est qu'il y a Camille. Et Camille, c'est
merci
aussi.
Camille.
Mais c'est évident. C'est que l'écriture de Camille, l'intérêt de Camille et son excellence aussi passe aussi dans ce type. Et là, du coup, moi, j'en profite pleinement. Dans mon écriture, j'y profite pleinement de l'écriture de Camille, du coup.
Et réciproquement.
Mais pour revenir sur ces personnages, effectivement, les personnages féminins sont fabuleux. Moi, je trouve que les personnages masculins sont aussi très intéressants dans la mesure où ils cassent cette idée de l'espion à testostérone, de James Bond jusqu'à Jack Bauer, etc. Et il y a aussi les personnages des hommes de pouvoir, celui qui est interprété par Jean-Pierre Darroussin et puis aujourd'hui Mathieu Amalric, qui ont qui manifestent une virilité qui est tout à fait différente de ce qu'on a l'habitude de voir, notamment chez les hommes de pouvoir. Et je trouve que ça crée des rapports, et notamment des rapports professionnels, particulièrement intéressants, qui sont pas uniquement la testostérone, comme dans Mad Men, par exemple.
Mais en fait, ce qui est intéressant pour l'écriture comme pour le jeu d'acteur, ça nous a vraiment obligés à travailler ce qu'il en est de l'autorité, en fait. L'autorité, d'abord, c'est quelque chose qui n'est pas facile de jouer, parce qu'en fait, les acteurs, par nature, ne sont pas des personnes d'autorité. Ils peuvent l'acquérir avec la notoriété, en devenant très très connus, peuvent acquérir une certaine notoriété, mais la notion d'autorité est compliquée. Et c'est vrai que dans le bureau des légendes, il est question quand même de collégialité de décision, mais aussi de décision très rationnelle, et surtout c'est que les enjeux des décisions sont très très importants. On parle de la vie, de la mort de gens, donc oui. c'est super sérieux. Donc l'autorité est très importante, et alors les acteurs sont confrontés au challenge de jouer l'autorité, mais nous, on est confrontés aussi au challenge d'écrire des scènes où l'autorité se dégage. Et donc, il n'y a pas une réflexion sur l'autorité, mais obligatoirement, on tourne autour de ça. Et c'est très intéressant parce que de savoir par où ça passe. On voit très bien à quel moment, par exemple, un acteur, s'il lève le ton, s'il prend un ton autoritaire, il devient grotesque. Et donc, son autorité est totalement affaiblie. Donc ça, c'est vraiment des trucs intéressants auxquels on est confronté comme scénariste, mais aussi comme réalisateur.
Oui, en entendant votre question, je me disais que nos personnages masculins sont quand même souvent des grands angoissés.
Oui.
Donc je pense qu'on a mis de nous aussi dans nos héros masculins. Voilà.
Mais c'est très bien. Petite pause musicale en clin d'œil et hommage à la série Le Bureau des légendes.
All the trees that we do not climb, bridges we cross in our minds, who are we? When we cry, when she says everything is fine, over her head clouds that look like mine. Oh, why can't she wish for brighter skies? All the speeches you make in your head, it's a
mystery. Well, I will say easy, but I agree. No, I don't wanna know in our minds. Who are we fooling when we cry? When she says
Kadzem de Jeanne Haddad, qui faisait partie de la bande originale du Bureau des légendes. Pas cette chanson, mais la chanteuse. Juste avant de vous libérer, Eric et Camille, une question évidemment qui intéresse tous les auditeurs. Quel est le rapport de la DGSE avec la série? Est-ce qu'ils vous font des comptes rendus? Est-ce que vous savez s'ils aiment la série? Est-ce qu'ils sont critiques?
Alors, on sait qu'ils aiment la série.
Oui.
Et je crois qu'ils aiment vraiment bien la série, d'après ce qu'on sait. Et le rapport qu'on a, c'est un rapport, disons, de confiance et aussi de respect. C'est-à-dire qu'il n'était pas question de faire 5 saisons et donc de passer 5 ans de sa vie ou 6 ans de sa vie sur un thème contre la DGSE. On va parler d'eux, on va parler des... Et surtout, on parle des gens qui font ce métier et qui travaillent tous les jours là-bas. Et donc, c'était... Autant on peut faire un truc caricatural sur une saison, mais en fait... Comme une série, c'est un chemin au long cours. Du coup, c'était plus intéressant de le faire en respectant ce qu'ils sont, et puis ensuite en ayant quand même la plus grande liberté, puisqu'en fait, ils n'interviennent absolument pas sur ce qu'on fait.
Éric Rochon, Camille de Castelnau, merci et bravo pour ce triomphe. Hein.
Merci beaucoup. Merci.
Vous voyez les mots quand même qui s'imposent. Je rappelle que la 5e saison du Bureau des légendes sera diffusée début avril sur Canal+. Oui. Merci encore.
Merci à vous.
Et à très bientôt, j'espère. Voilà, une heure en série, c'est fini pour cette semaine, ce top 10, ce fameux top 10 riche en surprises et en émotions. La semaine prochaine, nous évoquerons The Mandalorian sur Disney+, et une belle histoire sur France 2. Merci Ariane Allard, merci Marjane Boutet, et merci Benoît Lagan d'avoir été nos chroniqueurs décrypteurs de ce top 10. Merci encore à tous et à toutes, à la semaine prochaine. Donc, je vous recommande évidemment d'écouter demain soir Le Masque et la Plume, une heure en série, une émission à réécouter en podcast, le site internet, nous envoyer du courrier, bien évidemment. Cette émission a été réalisée par Marie-Annick Rimbaud, la programmation musicale assurée par Muriel Pérez, préparée avec Amel Caldi, et à la technique aujourd'hui, Stéphane Beaufils.